Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Look, I'm cold, I'm wet and I'm just plain scared.
I'm here. There's nothing to worry about.
How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dime, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties de bouquins sur le cinéma. Avec Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre, de Annelise Melchion, paru chez Playlist Society. Deux livres sur le giallo, à savoir L'ultima maniera del giallo, un cinéma des passions, de Alice Laguarda, paru chez Rouge Profond. Et Une étude en jaune, giallo et thriller européen, de Frédéric Pizzo Ferrato, qui ça c'est paru chez Artus Film. Nous reviendrons également sur Camp, volume 1, horreur et exploitation, de Pascal Français, paru chez Marais Éditeur. Et nous échangerons sur cet ouvrage avec son auteur Pascal Français. Voilà, tout simplement. L'équipe de Culture Prohibée remercie Guy Astic, Kevin Boissezon, Benjamin Fogel et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission.
I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite? I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the ray is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre, d'Annelise Melchion, donc est paru chez Playlist Society. Alors On vous parle souvent des livres parus chez Playlist Society. Dernièrement, on avait abordé, par exemple, la transgression selon David Cronenberg. Là, on va vous parler de ce livre qui est donc consacré en particulier au petit écran et à l'apocalypse, mais sur petit écran aux États-Unis. Alors évidemment, on va prendre du Walking Dead, du Battlestar Galactica, du Leftovers, toutes ces versions du cataclysme. Et beaucoup de mise en scène de la survie. Et surtout, le livre va s'articuler autour d'une idée forte, qui est que les États-Unis préfèrent imaginer la fin du monde plutôt qu'envisager la fin du capitalisme. Et les écologistes actuellement ne nous diront pas le contraire. Je pense qu'ils avaient compris que les libéraux préféraient plutôt envisager la fin du monde et aller se promener sur Mars que d'envisager la fin du capitalisme. Alors le livre est un livre écrit donc par une thésarde, hein, Annelise Melchion. Elle enseigne l'histoire et la géographie. Et c'est un livre qui vient quelque part compléter l'ouvrage récent de Jean-Pierre Andrevon, Récit de l'Apocalypse, qui était paru chez Vendémiaire. Jean-Pierre Andrevon, qu'on avait reçu dans l'émission pour aborder son livre, et qui était un ouvrage plus large, qui est sur le spectre plus large, puisqu'il balayait tout, de la littérature au cinéma, en passant un petit peu par le petit écran aussi. Mais disons que là, vraiment être concentré sur le petit écran permet de ne pas faire doublon avec le livre de Jean-Pierre Andrevon. Alors, c'est une entreprise, il faut le dire clairement, de réhabilitation de la geste télévisuelle, hein, qui est consacrée à l'apocalypse. Alors le livre, comme je le disais en introduction, est un livre d'une thésarde, donc il peut rebuter les plus réfractaires à un ouvrage analytique. On est toutefois loin du pensum verbeux, hein, c'est même un ouvrage qui analyse quand même avec beaucoup d'acuité la production américaine. Et puis un livre qui se conclut par du T.S. Eliot ne peut être qu'un bon livre. Voilà, hein, donc je vous le conseille vivement, et puis en vous prévenant quand même que oui, la lecture peut en être un peu ardue par instant. Deux livres maintenant sur un genre que l'on aime beaucoup dans l'émission, le giallo, hein, giallo qui veut dire jaune en italien. Voilà, on va pas vous re-raconter de nouveau l'histoire. Re-raconter, c'est pas beau d'ailleurs, hein, mais enfin on va pas vous le faire à nouveau. Et on va plutôt rentrer dans le détail des livres. Alors il y a un gros livre, tout d'abord un gros livre édité par Artus Film de Frédéric Pizzo-Ferrato, donc qui s'appelle Une étude en jaune, giallo et thriller européen. C'est vraiment ce qu'on appelle un très beau livre, richement illustré. Il y a une préface d'Hélène Caté et Bruno Forzani, puis après il y a un cours historique qui est développé. Et puis on revient ensuite sur la production de cinq grands maîtres, à savoir Mario Bava, Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Sergio Martino et Dario Argento. Et puis le reste est constitué de critiques de films liés au genre. Alors la maquette, effectivement, elle est fort belle. Le livre, fatalement, chez les fans de giallo, va susciter quelques débats sur le choix de certains films, Lisa et le Diable par exemple, Agatha in Calore ou Cold Eyes of Fear. Mais c'est le propre du giallo de susciter ce genre de débat, puisque c'est un genre qui est quasiment indéfinissable. Voilà, c'est très particulier. C'est l'émission des genres indéfinissables d'ailleurs, hein, puisqu'après on va parler de Kemp. Et puis par exemple, pourquoi George Hilton est absent des figures majeures du giallo, des acteurs. Bon, voilà. Donc il y a quelques petites choses quand même qui peuvent surprendre. Mais en tout cas, tous les fans de thriller à l'italiana se doivent de posséder cet ouvrage, qui est vraiment un fort bel objet. Et puis qui surtout est le premier en France ouvrage à aborder le giallo, hein, le premier ouvrage publié par un éditeur qui ne soit pas un fanzine, qui est le premier à aborder le giallo. Alors autre livre qui aborde le giallo, c'est L'Ultima Maniera, le giallo, un cinéma de passion. C'est un livre d'Alice Laguarda qui est paru dans la collection Raccord chez Rouge Profond. Alors là, on est sur l'autre versant du livre de cinéma, c'est beaucoup plus analytique, c'est plus proche d'un travail d'universitaire. Pour Alice Laguarda, professeure d'esthétique à l'ESAM de Caen, il était logique qu'un genre aussi plastique que le giallo l'intéresse. Le livre est assez court, il fait à peu près 200 pages, hein, et L'Ultima Maniera choisit quelques thématiques qu'elle développe à travers l'analyse de 33 films, alors sur le papier, hein, dans la table des matières, parce qu'en fait, il y a beaucoup de digressions. Alors, c'est des films savamment choisis. Hein, on passe de Six femmes pour l'assassin à Ténèbres, en passant par L'œil du labyrinthe. Film trop sous-estimé à mon goût, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi Mais qu'avez-vous fait à Solange, voilà, enfin, le travail de Dalamano. Et c'est réservé à un lectorat, une fois de plus, là, qui ne sera pas rebuté par des développements autour, par exemple, de l'intuition pasolinienne, de l'abstraction et du fonctionnalisme d'une scène. Donc, L'Ultima Maniera fait preuve d'une grande richesse d'analyse. Alice Laguarda va jusqu'à questionner certaines thématiques rarement abordées, telles que la question du genre, et alors sexuellement parlant, évidemment, d'un point de vue sexuel, hein, et la question du voyage, par exemple. Alors, pour un livre de la collection Raccord, il est richement illustré, évidemment. Un livre sur le giallo se doit d'être illustré, il ne peut pas en être autrement. Et j'ai envie de dire qu'on attend tous un peu un livre qui serait entre les deux, qui serait peut-être un peu plus analytique que le livre paru chez Artus, mais un peu moins que celui paru chez Rouge Profond. Mais qui sait, cela va peut-être venir très très bientôt.
I've written a letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love. Instead of a stamp, I put kisses. The postman says that's best to do. I've written a letter to Daddy saying I love you.
Écoutez Culture Prohibée. Nous allons maintenant aborder Kemp, volume 1, Horreur et exploitation, donc qui est un livre de Pascal Français, qui est préfacé par Christophe Beer et qui sort en librairie là, le 14 octobre. Hein, donc c'est vraiment un livre qui a été un gros coup de cœur, nous, de la rédaction. Hein. Vous savez qu'on vous parle souvent des livres de Pascal Français parce qu'il a un style unique. C'est certainement l'un des auteurs qui écrit sur le cinéma parmi les plus intéressants en France. Hein. Voilà, dès que vous êtes sur un livre de Pascal Français, vous n'arrivez plus à décrocher. Il y a un mélange de l'intime, il y a un mélange de la critique. Enfin, c'est assez particulier. De toute façon, c'est tellement particulier parce que certains sont en train d'écouter l'émission et doivent se dire « Mais le Kemp, mais qu'est-ce que c'est que le Kemp ?» Et là, puisque c'est trop compliqué à définir, on va demander directement à Pascal Français, en fait, donc l'auteur de cet ouvrage, de nous en dire plus. Alors tout de suite, Pascal Français, au micro de Culture Prohibée. Alors comme ça, Pascal, le camp, ça désigne exclusivement les films programmés sur les campus américains, c'est ça ?
Ah non, exactement, pas du tout. Non, c'est ce que prétendait donc quelqu'un que j'avais rencontré, un éminent critique, qui me disait que c'était que ça ne concernait uniquement que les films diffusés sur les campus. Non, ben c'est pas ça du tout, absolument pas.
Bon, c'est assez drôle en même temps comme mise en bouche dans le livre.
Et, oui.
Et avant de rentrer dans le détail du livre, en fait, y a une préface qui est rédigée par Christophe Beer. Qui nous révèle que vous avez mis plus de 7 ans à convaincre un éditeur de publier cet ouvrage. Comment ça s'explique ?
ça a été une sorte de chemin de croix, en fait, parce qu'il y a plusieurs éditeurs qui étaient intéressés par le livre, qui aimaient beaucoup l'idée, le concept et le bouquin en lui-même, mais qui trouvaient que le volume était trop important. Les uns après les autres, ils ont renoncé petit à petit. À la fin, ça marchait pas. Soit les subventions n'arrivaient pas, il n'y avait pas l'aide du CNL qui était demandée. Et puis je pense qu'il y avait aussi cette idée que le concept, l'idée du camp, n'était absolument pas connu en France, que ça allait parler à personne et que ça allait être très difficile finalement de trouver un lectorat pour ce sujet. Donc oui, ça aura mis 7 ans avant que Pierre-Julien Marais me dise quasiment une semaine après que je lui ai envoyé le manuscrit, moi il n'y a pas de problème, je le prends, je le publie en 3 volumes, et puis ça ira très bien comme ça, quoi. Donc voilà.
Et le livre débute par votre définition de ce qu'est le camp, en partant d'un essai, le premier sur le sujet, qui a été signé Suzanne Sontag en 1964. Vous mettez tout de suite les pieds dans le plat en expliquant que l'intellectuel n'a pas réussi à homogénéiser sa pensée. Elle fait même parfois preuve de contradiction. Ça en dit quand même long sur la difficulté d'aborder un tel sujet, qui est un sujet, en fin de compte, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
C'est très très large, c'est assez élastique et en même temps c'est très curieux, c'est à la fois très élastique, d'ailleurs dans le livre on s'en rend compte parce que j'aborde des cinéastes très très différents, ça peut être des cinéastes très renommés, considérés comme intellectuels, comme Joseph Losey par exemple, et également du cinéma bis, du cinéma populaire, mais en même temps il y a vraiment un fil conducteur qui est la notion d'outrance, d'artifice, de théâtralité, de tout ce qui est plus grand que nature, en fait. Et donc, c'est évidemment pas facile, à définir et à cerner. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a pris tellement de pages, ne serait-ce que pour mon introduction, pour essayer de cibler le sujet, de l'expliquer le mieux possible, en fait.
Et d'ailleurs, vous expliquez que le comportement camp fut promu par les gays mâles au XVIIIe et XIXe siècle afin de leur servir de signe de reconnaissance, en des temps où évidemment l'homosexualité était considérée comme un grave délit. Le camp, donc ce mot si ancien que personne n'arrive à définir, mais on va y venir, est donc vraiment quelque chose qui date de plusieurs siècles alors.
Qui date de plusieurs siècles, oui, tout à fait. En tout cas, l'idée du camp, la notion de camp, existe depuis plusieurs siècles. Oui, on peut remonter à la cour de Louis XIV ou même à Louis XIII, à travers une certaine attitude, une certaine façon de poser, et de une sorte d'efféminement aussi, par exemple, une sorte de folitude. En fait, je définis souvent le camp comme étant quelque chose de follement extravagant. C'est-à-dire, il y a cette extravagance, mais il y a aussi la notion de folitude, le concept, enfin l'idée de la folle, quoi, en fait, avec toute cette gestuelle et cet efféminement. Et donc, tout cela remonte à très loin. C'était, en effet, un signe de, quelque part, de reconnaissance entre homosexuels. Et puis ça vient du terme français d'ailleurs, se camper, qui est prendre la pose, prendre une posture en fait, une attitude particulière. Donc ça remonte à loin, en effet, tout ça, à très loin.
Et pour le définir, vous citez Wells, qui dit « le cinéma c'est le constat d'une illusion ». Le camp serait donc le constat d'une illusion, mais vous n'y couperez pas, parce que c'est vrai que dans le livre, on comprend que définir le camp, c'est pas un truc qui vous amuse particulièrement, mais pour nos auditrices et auditeurs, comment vous le définiriez, le camp ?
Alors, le camp, je le définis donc, comme je disais tout à l'heure, comme une espèce d'excessivité, d'outrance, de théâtralité, de pose et d'artificialité. Voilà. Et donc tout ce qui est quelque part, Sontag disait, c'est intéressant, c'est une des choses que je trouve intéressante dans ce qu'elle écrivait, que le camp c'était voir la vie entre guillemets, c'est-à-dire tout est mis entre guillemets, c'est-à-dire que tout est quelque part un peu artificiel ou un second sens ou un sens caché. Donc voilà, ça concerne tout ça, et puis ça concerne aussi tout ce qui est surjoué, tout ce qui est Oui, plus grand que nature, donc comme je le disais tout à l'heure.
Mais pas ce qui est kitsch.
Oui, c'est-à-dire avec le camp, je crois qu'on est justement dans une démarche plus volontaire et plus parodique que dans le kitsch. En fait, c'est une espèce de, je ne vais pas dire de glorification, mais en tout cas d'illustration de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui est normatif et de tout ce qui est, voire un peu niais, un peu suranné. Et c'est vraiment, le kitsch est complètement dans la normalité, sans aucune idée parodique, en fait. Tandis que le crime, c'est une déconstruction de tout ça. C'est voir vraiment les choses sous un angle un peu biaisé, en les exagérant volontairement. Pour moi, le kitsch, c'est quelque chose d'éminemment conservateur, et le camp est quelque chose de subversif, au contraire.
Ben voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est ce que vous évoquez aussi, Joan Harris, Andrew Britton, Gareth Cook, qui voient désormais le camp comme nuisible à la communauté homosexuelle. Alors, comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous combattez un peu toutes ces déviances issues, j'ai envie de dire, des cultural studies, une sorte de vision extrémiste des cultural studies qui pollue pas mal le débat aujourd'hui ?
Oui, quelque part, d'une certaine façon. Je pense que ce rejet un peu du camp à l'heure actuelle remonte d'ailleurs à assez loin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les mouvements de libération gay Stonewall en 1968, enfin à la fin des années 60, tout ça était fait au départ. Ces manifestations et ces revendications et ces bastons même qui ont eu lieu à Stonewall étaient essentiellement menées par des drag queens et des travestis qui étaient cernés par la police et qui étaient opprimés, oppressés. Bon. Et petit à petit, au fil du temps, très peu de temps d'ailleurs après Stonewall, il y a une volonté de normativation de l'homosexualité en en offrant plus polissée, finalement moins extravagante et quelque part qui soit un peu plus dans la norme. Et il y a eu un changement complet, il y a eu un rejet d'ailleurs des drag queens parmi les manifestants, enfin les personnes qui revendiquaient quoi, en fait qui revendiquaient une vision, une acceptation des gays, parce que cette image de la drag queen et de la folle était devenue inacceptable et était devenue gênante pour justement se faire accepter par la société. Donc tout ça a été éliminé petit à petit et a été un peu évincé et mis à l'écart. Sans compter qu'il y avait aussi les mouvements féministes lesbiens qui étaient contre aussi cette image de la drag queen de travesti, car elles jugeaient que c'était une dévalorisation de la femme, une parodie de la femme, et que tout ça était évidemment considéré comme très négatif, quoi.
Écoutez Pascal Français au micro de Culture Prohibée. Ce premier volume, alors il est ensuite composé de trois livres. Pour le premier, enfin vous inventez, alors je ne sais pas si vous l'inventez, mais moi je ne l'avais jamais lu avant, le terme de mélodrame gériatrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, ben oui, ça je l'ai inventé. Le terme, il existe un terme américain qui est la exploitation, c'est-à-dire un cinéma d'exploitation sur des personnages de femmes, en général de femmes, oui, vieillissantes. Et ce sont tous ces mélodrames gériatriques, ce sont tous ces films qui ont découlé du succès de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, et dans lesquels qui mettent en scène des personnages de femmes âgées qui sont victimes, ou alors au contraire qui sont les méchantes ou les bourrelles, et dans, qui présentent une image de la féminité complètement outrancière à travers aussi cette idée de vieillissement qui est une sorte d'idée de décadence quelque part, et de décadence, de gloire déchue, qui est quelque chose de très important dans la notion de camp. Et donc il y a eu tout un cycle de films qui était très mélodramatique, très excessif, et qui était basé sur l'idée du vieillissement et de la prise d'âge, quoi, en fait, et de la dégradation de la beauté à travers le vieillissement.
Alors, puis c'est plus sympa que de parler de vieille taupe, d'exploitation de films de vieille taupe, puisque hag, ça veut un peu dire vieille taupe en anglais quand même, si je ne m'abuse.
Oui, voilà, c'est ça, vieille taupe, oui, vieille sorcière, oui.
Alors, vous revenez sur Boulevard du Crépuscule et Fedora, qui sont, Fedora qui est la relecture un peu de Boulevard du Crépuscule, qui sont deux films de Billy Wilder. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire en fait que Billy Wilder, qui a toujours quand même été habité par la trivialité, la provocation, est un cinéaste en fin de compte dont la plus grande partie de la filmo est camp?
Une grande partie, en effet, oui, oui. Une bonne partie. On retrouve encore pas mal de camp dans Sherlock Holmes, en fait, par exemple. Oui, il y a une bonne partie de ça. Je crois que vraiment Boulevard du Crépuscule est le film matrice du mélodrame gériatrique. C'est vraiment, pour moi, le film qui pose les bases et dont tout va découler. Baby Jane, qui va être le film qui va vraiment déclencher le cycle de films de ce sous-genre, a beaucoup à voir également avec Boulevard du Crépuscule. Il s'agit aussi d'une star vieillissante qui perd la boule et qui reste dans les illusions de sa gloire passée. Donc oui, Wilder a été très important pour ça, avec aussi certains M. Show, qui est un classique camp également. Quoi, oui.
Et puis on parlait à l'instant de Robert Aldrich, évidemment, qui est sans doute le plus emblématique des cinéastes camp. Et pourtant, moi ça m'apparaît pas paradoxal, hein, mais pour beaucoup de gens, c'est un cinéaste plutôt adepte de la virilité, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de spectateurs qui n'arrivent pas à saisir qu'en fait il y a un lien très profond en fait à faire des films très virils et en même temps à aborder le camp. C'est pas du tout, comment dire, l'un appelle l'autre quelque part.
Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'on le voit comme un cinéaste de la virilité. Moi, je pense que c'est un cinéaste qui déconstruit pas mal les notions de virilité, de féminité. Ces films sont beaucoup centrés sur des personnages féminins. Contrairement à ce qu'on peut penser, un film comme Feuille d'automne, par exemple, avec Joan Crawford, donc Baby Jane, Démon des femmes, je crois, là et la Claire. J'oublie toujours le titre français, oui, ça doit être ça, le Démon des femmes. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont très importants dans ces films. Et il y a un regard comme ça où la féminité est hyper féminisée et la masculinité est hyper masculinisée aussi, parce que le camp ne concerne pas uniquement la femme, même si elle a sans doute la place prépondérante, mais il y a aussi l'hyper virilisation, une vision tellement excessive de la masculinité qu'elle en devient, comment dire, presque parodique, en fait. Il y a quand même pas mal ça chez Aldrich dans beaucoup de ses films. L'Empereur du Nord, par exemple. Oui.
Vous consacrez tout un chapitre à Bette Davis et Joan Crawford. J'avais envie de vous, qui sont deux figures incontournables du genre, hein, j'avais envie de vous poser la question. Alors, le sujet du livre, c'est le cinéma, mais est-ce que vous avez vu la série télévisée Fudd, qui est quand même fait par un créateur, Ryan Murphy, qui lui est aussi très camp dans ce qu'il fait quand même.
Oui, tout à fait, oui. Oui, ça, j'ai vu la série. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'en finit pas, cette histoire de Bette Davis et de Joan Crawford, parce que là, en ce moment, il y a une pièce de théâtre qui est en train d'avoir beaucoup de succès, qui est « Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?», qui est mise en scène et jouée par Michel Faux, qui tient le rôle en travesti de Bette Davis. C'est quelque chose qui a toujours fasciné à la fois Hollywood, d'ailleurs, qui a toujours été fasciné par ces images de stars vieillissantes, mais qui fascine aussi beaucoup le public. Et Et donc cette pièce de Jean Marbeuf a pas mal de succès en ce moment, ce qui prouve que le Kemp, même si on n'en parle pas en France, est quelque chose qui est très, très présent et qui est très plaisant aussi, je pense, pour une bonne partie du public, pas forcément le public homosexuel d'ailleurs.
Ah, vous évoquez aussi Curtis Harrington, hein, donc dans le livre Kemp, volume 1, Horreur et exploitation, qui est paru chez Marais Éditeur. Vous évoquez Curtis Harrington. Alors, c'est un cinéaste que beaucoup de cinéphiles de ma génération, hein, qui sont nés au début des années 70, ont découvert avec la VHS d'un film qui s'appelait Ruby. Oui. Alors, on sentait bien qu'il se dégageait un truc de ce film sans arriver à vraiment le qualifier. Donc, Ruby, c'est Camp, en fait. Donc, Harrington est Camp.
Ah oui, complètement. Alors il l'est du début à la fin. Il l'est dès ses premiers films, dès ses premiers courts-métrages. Sa première version de son tout premier court-métrage est une adaptation de La Chute de la Maison Usher. Et son dernier film est encore une adaptation de La Chute de la Maison Usher, dans laquelle il joue à la fois le rôle de Roderick Usher et le rôle de sa sœur Madeleine. Bon, Curtis Harrington était un metteur en scène, un homosexuel, qui a travaillé beaucoup avec James Whale à une certaine période, et ses premiers films étaient des films queer, en fait, ses courts-métrages très 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 queer, et il a gardé cette fibre tout au long de sa carrière. Donc Ruby, oui, c'est évidemment aussi l'histoire de quelque chose, quelque part, d'une sorte de star déchue, enfin, et c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la majorité de ses films.
Alors moi, avec le livre, j'ai découvert que Harrington avait eu un long parcours dans le cinéma d'avant-garde, ce que j'ignorais. J'avais vu pas mal de films de lui, mais j'ignorais cela. Et d'ailleurs, Harrington, lui, s'estimait étranger au camp. À la page 132 du bouquin, il est cité, hein, « John Waters fait des films volontairement camp, pas moi ».
Oui, 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 volontairement. Lui, peut-être qu'il disait ne pas le faire volontairement. Je doute un peu, en fait, de cette déclaration. Je pense que ce qui l'embêtait un peu, c'est que le terme camp, à l'époque de cet entretien, était généralement considéré comme étant les films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent bons, en fait. Et c'est devenu un peu la définition officielle dans les années 90-2000. Le terme avait un peu perdu son sens originel. Et donc, ça devait le gêner d'être associé au camp dans cette définition du camp, parce qu'évidemment, il ne considérait pas qu'il faisait des films tellement mauvais qu'ils étaient bons, qu'il faisait des films ridicules. Au contraire, ces films étaient très soignés esthétiquement, techniquement, superbe, visuellement très très beau, et je pense que ça l'embêtait d'être qualifié de camp à cette période en particulier.
Alors, je vais passer au livre 2 qui se consacre au cinéma d'épouvante. Alors, vous faites d'ailleurs un coming out singulier. Enfant, vous vouliez être Vincent Price. Vous en faites même un justicier gay. Alors, j'avoue que je m'était jamais venu à l'esprit l'idée que Vincent Price soit un justicier gay.
Oui, bah si. En fait, le personnage, enfin, Price est sans doute l'un des comédiens les plus camp du cinéma d'horreur, parce que c'est un comédien qui est dans l'excès, toujours à la limite de la parodie. Justement, chacun de ses rôles est mis entre guillemets. Il y a toujours une sorte de clin d'œil au public. D'ailleurs, j'avais un ami cinéphile qui me disait: Price n'est pas un roi de l'horreur, c'est un acteur comique. Bon, et il y a tout cet aspect, en effet, parodique, cette distanciation qu'il a toujours pris par rapport au rôle et par rapport au genre fantastique lui-même. Et puis aussi, c'était bon, un homme bisexuel, on le sait maintenant, c'est plus un secret pour personne, et qui a une énorme part de folitude dans son jeu. Quand on voit un film comme La Chambre des Tortures, par exemple, de Roger Corman, son rôle, c'est quasiment celui d'une héroïne en péril. Il ne cesse de tomber dans les pommes, de tourner de l'œil. Il est lui-même considéré, d'ailleurs, qu'il en avait peut-être fait un petit peu trop dans ce film. Mais il y a tout cet aspect toujours un peu folle chez les personnages qu'incarne Price, qui sont toujours soit des célibataires endurcis, soit des hommes qui ont perdu une femme qu'ils idéalisaient, mais en tout cas, bon, elle est morte. Bon, il est rarement père, d'ailleurs, dans la plupart de ses films. Ça arrive dans deux films, je crois, seulement dans sa filmographie, où il tient un rôle de père. Il est toujours un peu en dehors de de l'hétéronormativité. C'est un personnage très queer, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui n'est pas seulement celui de gay, mais des personnages torturés, tordus en fait, un peu marginaux. Donc oui, il y a toute cette dimension chez Price. Oui, c'est marrant parce que je voulais être Vincent Price, et quand on voit quelque part le court-métrage de Burton Vincent, c'est tout à fait moi, quoi. Je me retrouve complètement dedans, quoi.
Vincent Price, mais pas le Dr Fibes, hein, rassurez-moi.
Non.
I'll be down to get you in a taxi, honey. Better be ready by the 8:30. Oh, honey, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when you get there, honey. 2 steps, I'm gonna have a ball. I'm gonna dance off both my shoes. Wanna play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Town Strutters Ball. Yeah, tomorrow night at the Dark Town Strutters Ball. I'll do it, man. Let it, baby. Let me hear that song. Oh, yeah. I wanna be there when the band starts playing.
Vous écoutez Pascal Français, auteur de Camp Volume 1, Horreur et Exploitation, paru chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée.
I'll be down to get you in a taxi, honey. You better be ready for it, I'll be there. Oh, honey, don't be late, I wanna be there when the band starts to play. And remember what I told you when we did it, honey. The 2 steps, I'm gonna have a ball. I'm gonna dance on the board of my shoes. When I play the Jelly Roll Blues. That's tomorrow night at the Dark Town Strutters Ball. Yeah, tomorrow night at the Dark Town Strutters Ball. Yeah, me and you, honey, at the Dark Town Strutters Ball.
Est-ce que c'est le fantastique qui vous a amené vers le camp? Parce que, en gros, ce qu'on comprend à la lecture du livre, c'est que votre découverte de la cinéphilie, elle passe par le fantastique quand même beaucoup.
Ah, complètement, oui. Elle passe par Price, en fait, parce que le film qui m'a vraiment fait aimer et découvrir le genre, c'était L'homme au masque de cire. Bon. Où il y a toute une dimension, d'ailleurs tout un aspect du camp qui est important, parce que le camp étant une espèce de déconstruction un peu de la notion de réalité, de fiction, de réel et d'artifice, dans Le Masque de cire, c'est un peu le thème central du film, avec ce sculpteur qui modèle de l'artifice des statues en se basant sur la réalité qui sont des cadavres en fait qui recouvrent de cire. Il y a tout cet aspect qu'il y a dans le film. Et là aussi, Price a un jeu extrêmement précieux, maniéré dans son rôle du sculpteur Jarod. Donc oui, c'est venu de là. Je pense que c'est vraiment venu de là. Il y a eu 2 films essentiels pour moi qui sont Le Masque de cire et puis donc Est-il arrivé à Baby Jane, qui font partie des films qui m'ont fait découvrir le camp, en effet. Oui, je crois que ça vient là-dessus. Et puis, il y a toute cette notion, de toute façon, d'outrance, d'anormal dans le cinéma fantastique qui rejoint souvent le camp. Oui.
Et puis, dans le livre, hein, dans cette partie du livre, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un livre aussi qui vous est très personnel, parce que vous livrez beaucoup dans cette partie du livre. On sent que ce livre, il ne ressemble pas à vos autres livres. Il a quelque chose de singulier, de particulier.
Oui. C'est-à-dire, c'est un peu... Je veux dire, je me suis vraiment fait plaisir en l'écrivant, dans le sens où s'y retrouve un peu ma cinémathèque idéale, quoi. Bon, quelque part, ce sont tous les films que j'aime. D'ailleurs, quand j'ai découvert le concept du camp, en lisant un article, je ne sais plus lequel, à quelle époque, je me suis dit, mais c'est exactement tout ce que j'aime dans le cinéma. Donc oui, c'est un livre assez personnel, assez intime, qui est aussi l'histoire d'un parcours cinéphile, quelque part.
Et vous évoquez aussi beaucoup la Hammer, mais pour moi, la Grande-Bretagne, c'est la patrie du cinéaste de l'horreur gériatrique, Pete Walker, qui est passionnant, House of Whipcord, Frightmare. On a rarement vu des autant de vieux complètement fous chez un cinéaste que chez lui. C'est vraiment, il est obsédé par ça.
Ah, il est obsédé par ça, oui. Il était obsédé par le conflit de génération, mais il était aussi complètement obsédé, en effet, par cette idée du vieillissement qui amène la folie. Et en effet, en Angleterre, c'est le cinéaste Kemp par excellence, je pense. Et c'est quelque chose qui, bon, son actrice fétiche qui était Sheila Keith, bon, c'est une actrice qui joue dans l'excès, dans la démesure aussi, tout le temps. Et c'est assez fascinant, tout cet aspect de Pete Walker. Et du scénariste, d'ailleurs, David McGillivray, qui pour moi est le scénariste qui a signé les meilleurs scénarios de Walker, et qui, lui, se réclame du Kemp, en fait. Bon, il considère que les films sont très mauvais, d'ailleurs, il n'aime pas du tout ce qu'il a fait avec Walker, mais enfin, il n'hésite pas à dire qu'il écrivait des scénarios Kemp. Et toute cette idée de vieillissement est d'ailleurs très ambiguë chez Walker, dans le sens où c'était un cinéaste très conservateur. En fait, on a souvent considéré que c'était quelqu'un de libéral et tout ça, mais non, c'est un mec, il n'est pas décédé, un cinéaste, au contraire, avec des idées politiques très à droite. Bon. Donc il y a toute cette galerie de personnages âgés, vieillissants, qui représentent quelque part le pouvoir, l'ordre établi, le conservatisme, et Walker étant un cinéaste, un homme très conservateur, contrairement à l'idée qui a été répandue, où on voyait plutôt comme un cinéaste subversif. Non, il s'identifie plutôt à ces personnages âgés qui oppriment, qui agressent la jeune génération et qui veulent réprimer la contre-culture de l'Angleterre des années 70, fin des années 60.
Alors, parmi tous les films liés au fantastique que vous abordez, il y a les deux Paul Morrissey, dont on dit aussi qu'ils ont été faits en partie aussi par Antonio Margheriti, mais bon, ils s'inscrivent vraiment dans le travail de Morrissey, et produit par Andy Warhol, donc Du sang pour Dracula et Cher pour Frankenstein, qui me semblent pour moi être des sommets quand même du camp. Je les ai toujours qualifiés, moi, ces films de drôlement morbides, en fait.
Oui. Oui, c'est ça. Ils sont drôlement morbides. Et il y a aussi toute cette dimension homosexuelle qui vient de Warhol, qui vient pas vraiment de Morrissey lui-même, qui lui aussi, à l'instar de Pete Walker, est un cinéaste, un homme avec des idées très tranchées, un homme très 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 religieux, très croyant, et qui considérait que lorsqu'il faisait ses films, il voulait faire une dénonciation justement de tout ce libéralisme et de tout ça. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs dans sa filmo. Et oui, ce sont des films complètement délirants, excessifs, qui démontent les mythes de Frankenstein et de Dracula en les exacerbant de façon complètement démesurée, quoi.
Et vous parlez aussi de deux cinéastes complètement autres. Alors j'allais dire très très bis, mais même carrément Z, hein, mais alors par contre totalement fou. C'est Andy Milligan et Doris Wishman qui sont vraiment... Vous qualifiez même son cinéma d'exploitation pour cette dernière d'expérimental. Pouvez-vous en dire plus à nos auditrices et auditeurs? Parce que ce n'est pas forcément les cinéastes les plus connus abordés dans l'ouvrage, quand même. Même si nous, comme on est des cinéphiles un peu timbrés, on connaît. Mais franchement, là, on est dans le Z quand même.
On est dans le Z et on n'est pas loin, en effet, du cinéma expérimental, mais involontairement. Bon, c'est-à-dire que Wishman, comme Milligan, travaillait avec quasiment zéro budget. Bon, Milligan, lui, avait eu une carrière auparavant dans le théâtre, justement, expérimental, à New York. Oui, il montait des pièces de Jean Genet, des pièces d'Arabal. Bon, et c'était vraiment quelqu'un qui avait une formation intellectuelle assez poussée. Wishman, elle, faisait simplement des films d'exploitation, de sexploitation, pour vivre avec 3 francs 6 sous. Et donc, le manque de moyens invraisemblables qu'ils avaient les obligeait à biaiser, à trouver des astuces. Et tout ça faisait finalement un cinéma complètement déconstruit, complètement... J'utilise beaucoup le terme déconstruit, mais c'est vrai que c'est un peu celui qui s'impose. Un cinéma qui rejoignait, par exemple, l'expérimentation d'un Godard, sans le vouloir, quelque part. En tout cas, Wishman disait que elle, c'était pas du tout son intention, que ça la faisait rire quand on la comparait à Godard ou à des cinéastes d'avant-garde. Mais il y a tout un côté, finalement, avant-gardiste. C'est tellement loufoque que ça en devient génial et incroyable. Bon, tout ça par manque de moyens, en tout cas beaucoup de la part de Wishman. Donc je parle dans le volume 3, par exemple, des frères Cuchard, qui étaient des cinéastes expérimentaux, qui s'inspiraient beaucoup du cinéma classique hollywoodien et qui faisaient un peu des parodies des grands films, des grands genres hollywoodiens des années 40-50. Et tout ça avec zéro moyen. Ils étaient considérés comme étant, vraiment, ils travaillaient dans le créneau du cinéma d'avant-garde expérimental. C'est là que leurs films étaient diffusés, étaient projetés. Mais en fait, lorsqu'on voit, les techniques sont exactement les mêmes que ceux du cinéma populaire ou de la 42e rue d'Andy Milligan et de Doris Wishman. Il y a aussi ce même manque de moyens et ce besoin de trouver des astuces, quelque part, pour pouvoir imposer leurs obsessions, leurs imageries et faire des films.
Mankind, dead kings, many things I can define. Old Cajun's fire, swaggins, butter your mind. Incense and compliments, the color of time.
Who cares for the games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Incense and compliments, meaningless mounds. Turn on, tune in, turn your eyes around.
Look at your sun.
You can do beat makes and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Vous écoutez Pascal Français au micro de Culture Prohibée. En parlant d'obsession, il y a Russ Meyer. Russ Meyer, l'idole des adeptes de forte poitrine, qui est pourtant si camp et si prompt à moquer la virilité. Je crois qu'on ne dira jamais assez à quel point, quand même, c'est un cinéaste assez génial, en fait, Russ Meyer.
Oui, il est magnifique. magnifique, il est génial. Là-dessus, on voit un petit peu Aldrich. Je pense qu'il y a une vision hyperbolique aussi de la masculinité chez lui, qui est tournée en ridicule à force de, comment dire, d'exacerbation de tous les signes de la virilité. Et ça rejoint un peu, sont un peu les mêmes démarches. C'est un cinéaste extraordinaire qui, lui aussi, quelque part, a été expérimental dans ses mises en scène. Il a fait des choses qu'on avait rarement vues auparavant au cinéma, en tout cas dans le cinéma d'exploitation, qui était aussi son créneau.
Et puis il y a la drogsploitation. Alors c'est un genre dont l'AIP c'était un peu fait la spécialité quand même, la drogsploitation. Est-ce que vous pouvez en dire plus à nos auditrices et auditeurs, parce que en fin de compte c'est un peu tombé dans l'oubli, la drogsploitation, mais ça a vraiment été un courant très très important dans l'histoire du cinéma, et en particulier américain, puisque ça permettait de montrer des choses sous couvert de films soi-disant éducatifs, de montrer des choses qu'on ne pouvait montrer ailleurs.
Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire, comme le cinéma d'exploitation était basé sur employer des termes, des thèmes que Hollywood ne pouvait pas traiter à cause de la censure ou de la crainte de la censure, la drogue faisait partie de l'usage de la drogue, faisait partie de ces thèmes scandaleux que Hollywood ne pouvait pas aborder vraiment ouvertement. Et donc, il y a eu tout un courant de films autour de ce thème, toujours sous couvert, évidemment, d'en faire la critique. Mais comme tu le disais tout à l'heure, cette critique permettait, cette hypocrisie, quelque part, permettait de montrer des images taboues et de traiter d'un sujet et d'aspect tabou. Et c'est un courant qui a eu énormément de succès donc, dans les années 60, et en effet, dont l'AIP s'était fait une spécialité à l'époque.
Alors bon, évidemment, ce livre, je l'ai dévoré, comme vous l'aviez compris, je l'ai dévoré parce qu'il se lit tout seul. Et maintenant, la question, alors en plus, il y a une post-faste anticipative qui nous fait très envie. On nous parle d'un volume 2 avec de la comédie, du musical, du film pop hollywoodien. Alors la suite, c'est pour quand, Pascal ? C'est pour quand la suite ?
La suite, il y aura un volume qui paraîtra tous les 6 mois, donc ce sera au mois d'avril, avril 2022, et puis le troisième volume sortira en octobre 2022. C'est prévu comme ça, un créneau de 6 mois entre chaque livre.
Eh bien écoutez, je vais vous rappeler donc l'ouvrage, c'est Camp, volume 1, horreur et exploitation, donc de Pascal Français, qui est disponible chez Marais Éditeur. Pascal Français, qu'on remercie pour cet entretien.
Eh bien merci à vous et à toute l'équipe de Culture Prohibée. Merci beaucoup.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net, et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. That's what happened to baby Jane. Here's what happened to baby Jane. She thought the world was at her feet. That is what her daddy said was true. But her daddy didn't always know. Your daddy doesn't always know. So for the past 40 years, tears.
that's what happened to Jane.
What really happened to Jane?
And that's what happened to Jane.